Bonjour, je suis en compagnie de Stéphanie Eligère. Nous parlons d'un livre en préparation. Stéphanie, j'aimerais t'interroger sur le livre que tu prépares pour les éditions Questions théoriques, qui est lié à ton travail professionnel.
Oui, alors c'est un livre effectivement qui est lié à mon activité professionnelle. Je préfère dire activité salariée. Parce que écrivant, je dois trouver des moyens de vivre, de survivre, et donc je suis salariée. Et ma fonction est de retranscrire des négociations entre patron et employé, patron ou cadre. Et je vais régulièrement dans des grandes entreprises parisiennes, enfin je dis grandes avec des guillemets, dans différents lieux d'Île-de-France. Pour assister à des conflits relevant la plupart du temps de luttes de classe très sévères et pour en faire des procès-verbaux qui serviront donc de documents juridiques actant telle ou telle chose. Et il se trouve qu'il y a 2 ans environ, j'ai été envoyée par mes employeurs au 102 boulevard Haussmann couvrir une négociation entre une DRH de groupe d'hôtels de luxe et des femmes de ménage. Et cette négociation a eu lieu 2 étages ou 3 étages au-dessus de la chambre de Proust. Du coup, le manuscrit s'appelle 102 boulevard Haussmann. Parce que si donc, comment dire, salarialement, ce qu'on me demande, ce que la société me demande, ce que le on a un sens aussi les processus de négociation du capitalisme me demandent, c'est d'effacer toute la dimension sensible des conflits pour n'en retenir qu'une langue formelle, juridique. L'ambition, le mot est malvenu parce qu'il relève justement du libéralisme, mais le désir, plutôt justement, le désir du manuscrit, il est de restituer toute cette dimension sensible des conflits, toute cette dimension quasiment proustienne, cette recherche du temps perdu en quelque sorte, des luttes de classe, des moments de négociation, tout ce que moi, salarialement, je suis contrainte d'effacer dans les production de procès-verbaux, je veux là le rétablir. Et rétablir, en fait, l'atmosphère concrète, violente et belliqueuse et l'atmosphère de lutte au quotidien entre des gens qui sont très, très exploités et ceux qui les exploitent.
Et ça ne peut être réalisé que dans un travail littéraire, c'est-à-dire entrer dans la création littéraire parce que tu ne peux pas le faire par ton travail.
Tout à fait. Non seulement par la création littéraire, mais d'abord par un champ. Parce que c'est précisément le champ légal et juridique auquel mes procès-verbaux s'adressent m'ordonne, comme mes employeurs d'ailleurs, tous les acteurs de ce processus-là, m'ordonne d'effacer la dimension sensible de ces conflits. Et donc, c'est seulement le champ littéraire qui peut accueillir ce sensible-là. Et pour moi, et c'est d'ailleurs tout le sens de cette merveilleuse coïncidence, pas n'importe quelle forme littéraire, pas n'importe quel champ littéraire, mais celui qui nous a été donné par Proust, qui, c'est-à-dire au-delà de la question du souvenir, du passé qui ne revient pas, etc., de la radicalisation sensible, c'est-à-dire mettre des phrases au service d'une description complète et exhaustive d'un moment de vie, en fait. Et c'est ça qui était merveilleux. Et c'est cet héritage-là qu'avait lieu au 102 boulevard Haussmann, c'est-à-dire en plus Proust par ailleurs qui est devenu dans l'histoire de la littérature française, c'est la propriété du Figaro, c'est la propriété de la grande bourgeoisie de droite qui vaut sans doute Fillon aujourd'hui ou même Marine Le Pen. Il se trouve que là, l'extrême sensibilité de Proust, de la phrase de Proust, moi je la mets au service du prolétariat, si on me permet la formule un peu.
Parce que, Stéphanie Eligère, tu es très sensible aux atmosphères, tu es très sensible aux ambiances par tes autres travaux déjà réalisés. c'est quelque chose que tu ressens intérieurement. Or, j'imagine que dans ton travail de retranscription, donc tu assistes à ces réunions, tu les enregistres pour pouvoir après en établir des procès-verbaux sur lesquels ça va être des bases de travail en fait pour les employeurs et puis pour les syndicats. Puisque tu dois effacer toute la dimension sensible, j'imagine cette scène, ce bouleversement intérieur et le champ littéraire va te permettre enfin de pouvoir te mettre en accord avec ta personne et avec aussi tout ce que tu as intérieurement en toi de création et que tu restitues dans ce champ-là, qui est la littérature.
Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est vraiment une en dehors de ma propre personne, parce qu'effectivement, après, c'est des questions qui, pour moi, se posent au quotidien. C'est-à-dire que je suis le dépôt. En moi se déposent des tas et des tas d'ambiances, parce que je vais aussi bien dans des groupes pharmaceutiques à Issy-les-Moulineaux, dans des groupes agroalimentaires à Saint-Ouen. Je traverse énormément d'ambiances, différentes atmosphères d'exploitation salariale, économique, et tout ça se dépose en moi. Et effectivement, la littérature, c'est trouver une transitivité. Pendant très longtemps, là, pendant les années 60, on disait la littérature est intransitive. Je ne partage pas du tout cet avis. Enfin, d'ailleurs, Barthes, c'est une des choses sur laquelle il est revenu tout à la fin, en 79. La littérature est transitive. Non seulement moi, je vais faire transiter tout le concret sensible des dominés, des opprimés, tout ce qu'ils vivent, je veux le faire transiter par la littérature, mais pour moi la littérature est aussi transitivité vers le monde, vers retour vers le monde, si c'est ça que tu me demandais. Il est moins d'ailleurs en jeu, c'est moins un enjeu personnel qui se joue là pour moi, qu'un véritable enjeu collectif.
Et cet enjeu collectif, on a parlé de Proust, il faut qu'on parle maintenant des situationnistes, il faut qu'on parle de psychogéographie, parce que c'est ton autre grande influence par laquelle tu vas pouvoir, presque scientifiquement, de manière savante, ressentir ces ambiances et les retranscrire.
Tout à fait. La psychogéographie, effectivement, la découverte de Debord, pour ma part, ne s'est pas faite tant par le spectacle, même si je trouve que c'est un concept extraordinaire, hein, enfin très pratique, au sens où Deleuze pouvait parler de concept pratique avec Spinoza. Mais ça, le spectacle, tout ça, c'est très bien, mais il me semble, et ce dont je suis témoin, parce que dans chacune de mes explorations du milieu du monde du travail, du marché du travail parisien, qui est d'une violence sans égale en France, je pense, là, par où l'exploitation a lieu, c'est psychogéographiquement. Non seulement quand on est à son poste de travail, entre guillemets, hein, c'est l'expression consacrée dans le milieu, hein. Les patrons vous demandent de rester à votre poste de travail, mais non seulement quand on est à son poste de travail, mais c'est aussi bien quand on sort du métro, qu'on emprunte des trottoirs, qu'on ont des allures d'escalator, dans des atmosphères totalement oppressives, des unités d'ambiance qui sont déjà aliénation. Et là, il me semble effectivement que les travaux situent, dans l'IS, mais surtout avant dans Potlatch, ils nous ont donné des matériaux extraordinaires. La psychogéographie, c'est nommer les unités d'ambiance. Bon, c'est un travail surtout parisien, mais effectivement, c'est nommer les unités d'ambiance telles qu'elles se sont sédimentées au fil de l'histoire de Paris. Mais c'est aussi nommer, enfin, à ma connaissance, les situs ne l'ont pas fait, parce que bon, après, ils avaient peu contact aussi avec le marché du travail, enfin avec ce milieu-là. Mais de mon côté, c'est aussi me servir de ce concept extraordinaire pour saisir les unités d'ambiance de l'Ouest parisien où quasiment tout Paris va travailler. Et enfin, tout Paris et même toute l'Île-de-France. Parce que même en Seine-Saint-Denis, les gens, les pauvres de Seine-Saint-Denis viennent faire vigile dans les bâtiments du 16e. Les hommes et les femmes, elles sont femmes de ménage à 5h du matin sur le boulevard Haussmann, justement. Donc, et c'est ça que je veux saisir, en fait.
Et alors, dans ton entreprise littéraire, ça serait hybrider Debord à Proust, c'est-à-dire tenter une greffe comme ça qui pourrait être l'usage de la sensibilité de la langue française propre à Proust et l'usage bien entendu de la Révolution avec les situationnistes et avec Debord en premier.
Tout à fait. Après, j'ai quand même conscience d'une certaine insolence dans le collage. Voilà, parce que Proust reste malheureusement associé à une littérature capitaliste, parce qu'il a été, il a vraiment été capturé au sens que Deleuze donne au verbe, hein, la capture dans Appareil d'État et Machine de Guerre, la capture. Il a été capturé par la haute bourgeoisie parisienne. Mais donc il y a un petit peu de provoque, hein, j'en ai conscience, a priori dans le montage entre Proust et Debord. Mais je reste convaincue qu'aujourd'hui, nous désaliénés, ça passe naturellement par une conscience de classe et des concepts généralement exprimés, par généralité, mais ça passe, à mon sens, surtout par une prise de conscience du détail sensible de l'aliénation. Et le détail sensible, au vu de l'investigation que j'ai faite dans la littérature, et compte tenu de ma propre sensibilité, je connais personne d'autre que Proust qui peut aider à saisir avec un tel degré de finesse radicale le détail, en fait, des sensations. Effectivement, donc l'enjeu, il est là, c'est d'hybrider Proust au situationnisme, c'est-à-dire de mettre l'hypersensibilité proustienne, de la phrase proustienne, de sa saisie du subtil, de la mettre au service d'une désaliénation générale, quoi.
Et alors, quand tu es dans des manifestations, quand tu es dans des lieux et dans des moments, on va dire, de dureté revendicatrice, avec la police qui est là, tu vas aussi également chercher le détail sensible de l'atmosphère, de ces mobilisations citoyennes.
Tout à fait. Ça fait très longtemps que... mon engagement politique, j'avais 20 ans. Voilà, j'ai été très tôt sympathisante des mouvements libertaires et j'ai quasiment participé à tous les mouvements sociaux qu'il y a eu depuis 1995. Et effectivement, je suis très très fascinée par ce qui se passe pendant une manifestation, d'un point de vue psychogéographique. On va dire que le mouvement le plus fort que j'ai vécu pour l'instant, c'est celui du mouvement contre la loi travail et son monde et son atmosphère, j'ai envie d'ajouter, parce que c'était un grand slogan, on est contre la loi travail et son monde, et moi j'ajouterais et son atmosphère. Parce que la loi travail, c'est aussi une certaine atmosphère de l'exploitation salariale qui est aussi encore plus aliénante peut-être que l'obligation de rester à son poste de travail, etc., etc. Et je pense effectivement que pendant les manifestations, on peut toujours, comme d'habitude, en faire un grand récit... conceptuel ou de la narration brute, enfin, ou simple. On s'est avancé de Place d'Italie jusqu'aux Invalides, mais je, pour ma part, ou dans ces moments-là d'ailleurs, je me, à l'inverse de toutes les précautions d'ailleurs, je constitue jamais de binôme. Tu sais, normalement, il faut qu'on constitue des binômes pendant les manifestations. C'est-à-dire qu'on doit toujours qu'on veille sur quelqu'un et quelqu'un veille sur nous au cas où il y a une arrestation. Moi, je le fais jamais. Je pars toute seule parce que j'ai besoin de me fondre totalement dans ce qui se passe. Et vraiment de me fondre dans l'air de ce qui se passe. Et là encore, au printemps dernier, ce que j'ai pu constater, c'est que par exemple, quand on arrivait dans l'ouest parisien, là où les unités d'ambiance, comme disaient les situs, hein, les unités d'atmosphère étaient très bourgeoises, très très dominantes, résidentielles, soumises à l'ordre du commerce, de l'honneur de travailler, enfin toutes ces espèces de valeurs comme ça qui sont diffuses et qui structurent l'architecture atmosphérique en quelque sorte d'un quartier. Nous, quand on les traversait, avec la puissance qu'a eu le mouvement, la puissance qu'était le mouvement et qui, je l'espère aujourd'hui, n'est pas finie, on était une autre unité d'ambiance, une unité d'ambiance extrêmement mobile et qui, passagèrement, imposait à ces quartiers un renversement atmosphérique, en fait. La grande linéarité de l'axe historique parisien, de la belle ordonnance du paysage, etc. Soudain, nous avancions avec des fumigènes et une certaine manière d'occuper la rue. Depuis lors, j'ai découvert ce merveilleux concept chez Deleuze, en fait, appareil d'État et machine de guerre. On lui dit des machines de guerre qu'elles sont tourbillonnaires pour occuper le maximum de points dans l'espace. En fait, c'était ce qu'on faisait. En fait, nous, on était comme des sortes de tourbillons, de tornades. Il y avait une sorte de devenir tornade du cortège de tête qui s'avançait sur le boulevard Montparnasse et qui imposait tel comme ça un énorme nuage d'orage, oui, je trouve pas de meilleure expression là tout de suite, de renversement atmosphérique. Vous voulez nous dominer, ben on est contre votre domination. Nous, on libère de l'air. Nous, on libère de l'espace. C'était une expression très belle du mouvement d'Humilly, en fait. Il disait, on libère de l'espace. Moi, je dirais, on libère de l'air. On libérait de l'air.
Et tu avais aussi une fascination, parce que c'est une partie de ton travail sur les nuages, sur le ciel. Tu avais une fascination pour les fumigènes, notamment les fumigènes policiers que tu prenais en photo. Et tu avais tout un travail justement d'atmosphère. C'est-à-dire à partir du moment où il y a fumigène, il y a manque respiratoire.
Tout à fait. Alors pour précision, les fumigènes, c'était nous. Les fumigènes, c'était nous. Des roses aussi, surtout. Et en revanche, effectivement, je pense que, et vraiment c'était très sensible, c'était même flagrant pendant tout le printemps, hein, du 31 mars jusqu'au 15 septembre, on peut faire toute une lecture atmosphérique du mouvement. C'est-à-dire que nous, on avait des fumigènes qui, tout d'abord, présentaient cet aspect pratique de flouter nos visages. Bon, pour beaucoup, on était cagoulés. Mais en plus, voilà, ça privait de netteté l'air. La netteté, comme ça, qui peut être très mauvaise, parce qu'elle favorise les identifications policières. Nous, on produisait des nuages en permanence. Comme disait le Mili, toujours ce mouvement, on produisait une ambiance. Ça, je les cite, donc j'invente pas, hein, je spécule pas tant que ça, Dominique. On produisait une ambiance, notamment grâce aux fumigènes et à tout ce qu'on dégageait, nous, et une façon libertaire d'occuper tous les points de l'espace d'un boulevard. Et en face, ils avaient aussi des nuages, et des nuages lacrymogènes, effectivement. Et ces nuages lacrymogènes avaient la particularité d'être des absences d'atmosphère respirable, en fait. C'était comme des sortes de béton translucide et irrespirable, des trouées, comme si on était dans l'espace, en fait. L'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire qu'il crée des endroits sans oxygène. Et on a fait cette guerre des nuages. Après, effectivement, nos nuages à nous étaient peut-être plus, hélas, pas assez offensifs. Et on n'était pas, c'était pas des armes, en fait, à proprement parler. Mais c'était peut-être des bijoux, au sens où Deleuze, justement, dit que aux signes et aux outils de l'appareil d'État, les machines de guerre opposent des armes et des bijoux. Les fumigènes étaient nos bijoux.
Parce que tu es aussi très sensible par ces phénomènes atmosphériques, aux phénomènes naturels, et donc aux nuages, aux formes des nuages. Tu as tout un travail là-dessus. Et là, pour ce travail-là, on quitte Paris, quoique, mais une partie de ce travail s'effectue sur le plateau de Mille Vaches, à la campagne. Il y a aussi le plateau de Mille Vaches, un haut lieu de contestation. C'est là où se trouve Tarnac.
Tout à fait. En fait, effectivement, avant que le mouvement explose et surgisse en mars, ça faisait déjà très longtemps que je travaillais les nuages et les formes atmosphériques. dans, au sens où je trouve que c'est le subtil même. En fait, c'est la subtilité en marche en permanence. Jamais un nuage se reproduit, il y a une production de nuances en permanence. D'ailleurs, Barthes le rappelle dans la préparation du roman, nuancer du latin, ça vient de nuare. Donc, commenter les nuées, décrire les nuées. Donc la nuance, Proust, l'air, tout ça, tout fait bloc pour moi en fait, enfin bloc, tout fait réseau. Et donc effectivement, avant le surgissement du mouvement, je travaillais beaucoup sur l'atmosphère, les finesses de l'ambiance et tout ça. Le mouvement a surgi et au même moment, une sorte de coïncidence qui n'est pas, je crois, un hasard, j'ai décidé d'ouvrir un espace pour moi, de littérature collective avec les habitants du plateau de Mille Vaches grâce à l'association PAN de Jean Gilbert et Agnès Faure qui m'ont permis de rencontrer l'atelier de géographie populaire, l'association Pivoine, Quartier Rouge. Et à partir de là, grâce à ces rencontres, j'ai décidé de lancer une espèce comme ça, de projet de littérature collective qui s'appelle « Les entretiens sur le temps qu'il fait ». Où je rencontre des habitants du plateau et je les questionne sur les sensations brutes, très physiques, très sensibles, vraiment les relations les plus sensibles qui soient, qu'ils ont avec l'atmosphère du plateau. Et depuis le 1er octobre, donc peu après la fin du mouvement officiel contre la loi travail, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un petit logement à Imoutier. Donc effectivement, je réussis à me dégager de l'atmosphère, des unités d'ambiance malveillantes de l'Ouest parisien, du marché du travail, du grand capital, pour aller sur le plateau et construire comme ça une sorte de projet collectif où tous ensemble, on peut essayer de nuancer les relations à l'immanence de l'atmosphère.
Merci Stéphanie Légère.
Merci à toi, merci à vous.